écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Histoire. Nous sommes à la poursuite de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est très heureux de recevoir quelqu'un qui revient, qui fait un comeback. Abdelrahim Kassou, l'architecte, l'anthropologue, le héros du podcast consacré à la ville de Casablanca, est de retour. Salut Abdelrahim.
Salut.
Comment ça va ?
C'est un plaisir de revenir.
Et surtout, alors j'ai oublié le mot le plus important dans ta définition aujourd'hui, plus qu'architecte, plus qu'anthropologue, tu es Figigi.
Exact.
Donc de la ville de Figigi.
C'est clair.
Et on va consacrer ce podcast à cette ville qui a une riche histoire que tu vas nous commencer justement, non pas par l'histoire, mais par la géographie.
Alors c'est important. Figigi, effectivement, est connu. Le nom est connu, mais peu de Marocains savent la situer. Et je pense que c'est important. Si on la positionne, on a les gens associés à l'oriental, en gros, Oujda. En fait, si on trace une ligne horizontale, elle est à peu près à la hauteur de Safi. Donc elle est vraiment pas mal au sud.
Elle est plus au sud qu'on croit.
Elle est à peu près à égale distance de Oujda que de Rachidia, à peu près 380-400 km entre Oujda à Figigi ou de Rachidia à Figigi. Elle est située évidemment dans cette frontière, même si le terme n'est pas forcément approprié le long de l'histoire d'appeler cette zone la frontalière, entre ce qui est devenu maintenant le Maroc et l'Algérie. Elle est plus proche de Tlemcen que de Fès. Elle est à peu près à 300 km à vol d'oiseau de Tlemcen, à 400 km à vol d'oiseau de Fès, qui est la ville importante de l'époque. Elle est à égale distance entre Fès et Raudaya, 400 km. Raudaya, dans le sud d'Algérie, qui est la capitale ibadite, qui a eu un rôle important dans le fonctionnement de toutes ces zones-là du Sahara. Donc si, à l'image de ce que vous avez arrêté de rappeler dans d'autres podcasts, il faut raisonner en termes de flux, en termes de circulation et pas en termes de frontières. Exactement la même chose pour comprendre la relation entre le nord et le sud. Le Sahara est une zone qu'on traverse et qui est une zone de circulation très riche en termes d'échanges, en termes d'économie et en termes de conflits, bien entendu, et également pour cette zone.
Oui, c'est une des grandes découvertes de l'écoute des historiens. Le Sahara est un endroit qui rassemble plus qu'un endroit qui divise. Enfin, on a toujours l'image aujourd'hui d'un mur infranchissable. En fait, non, c'est une zone d'échange, de commerce, de culturel, commercial, etc.
Et je vous invite à avoir le même regard sur cette région-là, située entre l'est du Maroc et l'ouest de l'Algérie, qui est une zone d'échange, de rencontres, et évidemment des zones de conflits, des zones d'échange politique, des zones de guerre également. Ces zones sont occupées depuis très très longtemps, depuis le néolithique, puisqu'il y a parmi les grands sites importants du Maroc en termes de gravure rupestre, il y a le site Figigi, à côté d'autres sites. Hein, vous avez dédié un podcast avec le professeur Mjidi sur ce sujet-là, qui est passionnant, et donc c'est très important. D'un point de vue géographique, on est sur des hauts plateaux. C'est des hauts plateaux. Les hauts plateaux, en venant de Oujda, en allant vers le sud ou en venant de Rachidia, en passant par Boudnib, en venant de Oujda, en passant par Mataka, par Tenevara, etc. Ce sont des grands plateaux qui sont des plateaux occupés par des tribus nomades plutôt pastorales, donc d'éleveurs. Et on arrive sur Figigi, qui est une espèce de cuvette entourée de montagnes. Qui sont des montagnes de 1000 à 1200 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même des montagnes importantes. Pareil, on n'a pas forcément, on se projette pas dans une zone de montagne quand on pense à Figigi. On pense à un désert. En fait, c'est une oasis. Donc, c'est des constructions d'une série de ksar. Donc, des constructions en terre plutôt compactes, comme il y en a à Zagora, comme il y en a ailleurs. Dans des palmeraies entourées de montagnes. L'étymologie, l'on voit à terme Fij Kol, en arabe, ce qui, à mon sens, pas forcément juste, parce que c'est une zone plutôt amazérophone. Et au Figigi, on dit Ifigi. En berbère, on l'appelle Figigi Ifigi. Donc, il n'y a pas le gars. Donc, Ifigi, ça renverra peut-être au terme Afay, qui est courir en amazir. Je ne suis pas linguiste, donc je ne peux pas affirmer l'origine.
Il n'y a pas d'unanimité sur.
Et je ne sais pas si on aura. Après, il y a des choses sur lesquelles, également important. Autre légende intéressante, il y a une petite rivière dans le coin, Zouzfana, qui est connue parce que c'est un peu. En général, des séparations de territoires sont liées ou de frontières sont liées à des cours naturels ou des reliefs, etc. Là, en l'occurrence, c'est une rivière qui sépare actuellement le tracé de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Zouzfana viendrait de Joséphina, qui serait une princesse romaine. Là encore, moi, j'aime bien cette histoire.
C'est bien raconté. Juste pour information, cette rivière, elle est sèche, là, non?
Elle est souvent sèche, mais il y a eu un barrage fait il y a une vingtaine d'années sur cette région-là. Donc, ça a un peu changé l'arrondissement de l'eau, mais c'est une rivière qui est alimenté parce qu'il y a de la neige de temps en temps dans la région, donc c'est une rivière, comme ces rivières de Drah ou d'autres, ou de Ziz, etc., qui sont très sèches l'été, mais qui peuvent avoir des crues très violentes, et voire couper la route. Et pas seulement celle-là. Hein. Zouzfana, certains le renvoient le nom également à Youssef, Youssef, etc., et en voyant une population juive très ancienne dans le région également. En témoignent deux cimetières juifs qui existent encore à Figigi.
Si sur le rupestre, on parle d'une autre climatologie que celle qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on va trouver des animaux disparus sur les murs. Hein.
Bien sûr.
Mais tu nous as quand même parlé de figuier avec les mots neige, Joséphine.
Montagne.
Donc, c'est-à-dire des gens de très loin. Je pense qu'on peut arrêter le podcast ici. Tu aurais déjà déstabilisé la moitié des gens qui s'attendaient à une étendue désertique et beaucoup de sécheresse. Ça change un peu l'image. Alors maintenant qu'on a posé un peu la géographie du lieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de cette région?
Déjà, l'organisation de Figuier en Tantin, c'est une agglomération de Xar. Xar, c'est un peu comme on a ailleurs. D'ailleurs, le fonctionnement de Xar est quelque chose qu'on va retrouver dans la région en allant de Skoda, Zagora, etc. Mais en continuant vers le toit algérien. Là encore, une organisation sociale des agglomérations urbaines qui sont là pour des raisons militaires, mais également autour de sources d'eau. Donc Xar est une construction avec une muraille, avec des tours de guet.
Et ça, c'est un stock.
Ça, c'est à la différence de Kasbah. Kasbah étant une construction plutôt isolée, plutôt en hauteur, ça est quelque chose d'étalé. C'est une espèce d'agglomération de plusieurs familles qui ont en général des relations directes, ouais. Mais avec une muraille, avec des portes, avec des ruelles intérieures un peu sombres. Donc, et en général, pas plus que R+1. C'est en général très étalé. C'est la construction en terre, en pisé et en adobe.
Donc, c'est des gens qui se regroupent pour des raisons de sécurité ou de stockage ou de proximité. C'est quoi, ça?
Alors, il y a déjà des regroupements liés à proximité de sources d'eau. La figuier est organisée autour de palmeraies. Et les palmeraies sont liées à des Xar. Il y a le palmeraie et les sources de Xar. Alors, les Xar, juste si vous permettez, il y a 7 Xar actuels à Figuier. Donc, c'est important. Figuier est une espèce de fédération pour aller vite. De sept Xar. Oula Sliman, Maïz, Oudaria, Hamam Fouqani, Hamam Tahtani, Labida, Tiznaga.
On ne sait pas où tu sors.
Maïz, qui est le plus petit démographiquement, mais très intense quand même.
Bien sûr. Personne n'en a douté.
Il y avait deux autres Xar qui ont disparu, Mahrez et Al-Jaba. Al-Jaba était un Xar installé. Je résume, ça allait pour Moulay Ismaïl pour assurer un contrôle, pour Al-Mahzen, pour assurer un contrôle de la région. Al-Mahz est un Qsar d'opposant pour aller vite à Moulay Rachid, de Sijil Massa, donc on est dans cette
région. Moulay Rachid, frère de Moulay Ismaïl.
Voilà. Donc l'Alawin, donc avec une zone de conflit. Et ces deux Qsar ont disparu suite à des conflits politiques, mais également à des conflits sur les sources d'eau. On est dans une zone où l'eau et la denrée est importante, donc il y a eu beaucoup de conflits entre les Qsar, et donc deux Qsar ont disparu. Maintenant, on en a sept. Le regroupement de ces Qsar sur une zone un peu limitée géographiquement serait dû à...
Donc, en fait, pardon, excuse-moi, je synthétise pour les gens qui... Donc, Figuier est une sorte de conglomérat de cette sept Qsar.
On le voit très bien, il suffit de regarder une photo aérienne, ou alors encore mieux y aller. On voit très bien quand on arrive donc, de Bouafa, donc de l'ouest, de nord-ouest en l'occurrence, on rentre dans Figuier, on va arriver, on va trouver deux Qsar à gauche et quatre Qsar à droite, le long de la rue principale, et on voit très bien se distinguer la limite. La limite se distingue moins parce que maintenant, de plus en plus de personnes, notamment les migrants, sans forcément vouloir leur jeter la pierre, construits en béton, dans des choses pas forcément très heureuses d'un point de vue architectural, entre les Xar. Et du coup, ça a un peu brouillé la limite qu'on pouvait voir, parce qu'il y avait les Xar, les palmeraies, des espaces vides, et après, on passait à l'autre Xar. Mmh. Ensuite, on arrive à une falaise, on descend, et on trouve le Xar le plus grand, Znaga, qui est en bas, donc, autour du palmeraie. D'ailleurs, une très très belle vue quand on arrive, on a ce Xar d'en haut, on a le premier palmeraie, on traverse, on longe une falaise, et on descend, on a le Xar en bas. D'un point de vue tribal, on est dans une zone, vous avez dédié des podcasts à ça, on est dans une zone entre Snata et Snaja. On est à peu près, là encore, Sikadev qui avait parlé de ce podcast a bien indiqué qu'il y a ces trois grosses confédérations tribales à Mazir, mais qu'il n'y a pas une limite nette et propre.
C'est pas hermétique.
Donc on est dans cette zone-là. Au 10e, 11e siècle, c'est ça, le 10e, 11e siècle, on a eu l'arrivée des grandes tribus arabes, ouais. Une espèce de grande migration.
Les Hilaliennes.
Les Hilaliennes vers l'ouest. Donc certains se sont installés, notamment les Bani Maqid se sont installés dans la région. Et ça aurait provoqué le regroupement des Qsar pour des questions de sécurité, de protection, mais également pour des questions de différences culturelles. Ces Qsar auraient été, d'après certains historiens, certains récits, beaucoup plus éclatés et se seraient regroupés et en laissant.
Vous avez des tribus Ben Maqil qui sont installées.
Il y a les tribus Bnigil et les tribus Lamo qui sont des tribus arabophones.
D'accord.
Certains sont installés, sont devenus misérophones, qui sont urbanisés, on va dire, en s'installant dans l'oasis. D'autres sont restés nomadisantes. Et jusqu'à maintenant.
C'est une zone de gros mixage, quoi, parce qu'il y a les Snaja, il y a les Znata, il y a les Ben Maqil. C'est un grand brassage, quoi.
Et ça montre qu'on est au centre, on est
oui, absolument carrefour, pas le côté carrefour.
On est au centre.
En fait, c'est aujourd'hui, on coupe donc avec les frontières, disons modernes, parce qu'elles ont. On voit Figuier à la marge, mais en fait, il est au centre. Il est au centre d'un espace...
Du Maghreb occidental,
d'un espace cohérent, quoi.
Complètement. Un des Qsar qui s'appelle Ish, qui existe encore, qui est peut-être à une vingtaine de kilomètres de Figuier, serait un de ces Qsar qui serait resté un peu à la marge. Et donc, il y a évidemment un gros boulot d'histoire à faire sur cette région-là. Donc, installation des tribus arabes de cette grande migration. On est également dans cette zone-là où on a à l'est les Ottomans et à l'ouest l'État saadien.
Oui.
Et on a une présence ottomane. On dit que les Ottomans n'ont jamais mis les pieds au Maroc. C'est faux, parce qu'ils sont restés quelques mois à Figuig. Donc, Figuig, il y a des présences ottomanes. Ils ont quitté, ils ont libéré la ville. Ouais. J'imagine, suite à un accord avec les Saadiens, il n'y a pas eu de conflit. Parce que
les Saadiens ou les Alaouites ?
Les Ottomans, on est à la fin des Saadiens. Après, les Ottomans n'étaient pas forcément intéressés par contrôler ce territoire. Après, on peut avoir plusieurs lectures. Est-ce que c'est Saadien qui, suite à un accord, demandait aux Ottomans de quitter ? Est-ce que les Ottomans n'étaient pas intéressés, ils s'intéressaient par le contrôle des côtes ? On peut avoir plusieurs lectures.
Le fait il y a une troisième, une quatrième, une cinquième lecture, qui est les relations très spéciales qui entre les Ottomans et les Saadiens, en particulier Abdelmalek Saadi et son frère Ahmed Lansov, qui sont aussi des produits de l'école ottomane, et qui donc ne se voient pas forcément comme des États conflictuels. Quoi.
Bien sûr. Cette région un peu est devenue un peu, donc encore une fois, une région où on est, où une des principales des caravanes, en Sijilmaset Lemsen, une des escales importantes, donc une ville où il y avait une grande dynamique
donc
économique.
Donc on peut imaginer Figuig à cette époque-là avec beaucoup de chameaux, de matériel, de, enfin le port saharien, quoi, l'étape.
Voilà, une des étapes. Une des étapes, une présence, on a parlé des communautés, donc il y a eu des communautés chrétiennes, je ne parle pas de la colonie, je parle des chrétiens, l'arrivée de l'islam, communauté juive importante, on témoigne les cimetières qui sont encore là. L'histoire s'est un peu accélérée, entre guillemets, dans cette région-là, quand la France s'est installée en Algérie,
parce que 1830,
et donc un des événements importants, c'est bien entendu la révolte de Emir Abdelkader. Oui. Que tout le monde connaît, 1832-33, les révoltes armées contre la présence coloniale dans l'ouest algérien, dans l'Oranais.
Qui provoque une réaction avec le Maroc.
Le Maroc qui aide, le sultan qui aide, l'Emir Abdelkader qui reçoit ses troupes, qui lui permet, lui offre des bases arrières.
Bases arrières,
donc dans la région de Oujda, mais également dans la région de toutes ces zones-là, jusqu'à Figuig, donc une base arrière de cette période-là. Et donc la fameuse bataille d'Isli. 1844, entre le Maroc et la France, pour aller vite.
Le Maroc et la France, je synthétise, le Maroc servant de base arrière aux opérations de résistance, disons, d'Emir Abdelkader, et la France qui l'accuse d'abriter un brigand et qui va rentrer par la frontière algérienne et infliger une grosse défaite que le professeur Bouaziz a appelé une débandade, si je me rappelle bien, à Isli en 1844, entre les troupes menées par Sidi Mohamed, le fils du sultan.
C'est complètement.
Et, alors j'ai oublié le nom du militaire français, mais c'était
Bugeaud
qui était même avec Napoléon, lui. Voilà. C'est-à-dire, c'est un ancien.
Un vieux de la vieille, oui.
C'est-à-dire qu'il a fait toute l'Europe. Et qui a été, je pense, nommé duc d'Isli suite à cette victoire. Voilà.
Isli, on est dans la région d'Oujda, dans la région des
Bnisnassen.
Donc, ça s'est accompagné également par le bombardement de Tanger et de Mogador.
Exactement.
Ça a forcé un peu le repli des Marocains, c'est également ça. Voilà. Et donc, suite à la bataille.
Une bataille terrestre et deux bombardements navals, disons.
Ouais, exactement. Et donc, deux traités qui, suite à ça, un moins connu, qui est le traité de Tanger, 1844, où, en gros, le Maroc reconnaît qu'il ne va plus intervenir dans les questions algériennes, il ne va plus aider la résistance algérienne, qu'il ne va pas forcément respecter tout à fait. Et la France, en gros, qui dit qu'elle reconnaît la légitimité du Maroc, qu'elle ne va pas passer la frontière pour aller vite.
Alors là, il faut juste, j'insiste, parce que cette période-là, elle est très importante, si vous voulez comprendre. Le Maroc n'a plus comme voisin une régence ottomane, des tribus algériennes, un émirat de Tlemcen. Il a à côté de lui la France. Et ça change beaucoup de choses, y compris en termes psychologiques. Quand on connaît la puissance européenne, ça crée une sorte de, j'ai envie de dire, d'angoisse par rapport à la protection de la souveraineté marocaine. Quoi.
Exactement, on a le café finalement à nos portes. C'est quand même une lecture de l'histoire qui se fait aussi sur cette base-là.
C'est le choc, comme le choc a été de savoir que Napoléon est débarqué en Égypte. Mmh. Les Français débarquent, voilà. C'est, dans la société marocaine, c'est un choc total. Quoi. Voilà.
Autre accord important qui va avoir de grandes conséquences sur la région, c'est le traité de la Lamernia.
Voilà,
il faut en parler. 1845, ce traité qui précise plusieurs choses, notamment un tracé des frontières. Alors, un tracé des frontières qui est plutôt précis. On le voit, le document d'ailleurs existe,
il est sur Internet,
à la Bibliothèque nationale. Et on trouve le tracé des frontières dans la région nord jusqu'à la Méditerranée, la région d'Oujda. Qui est encore valable. Des régions moins traitées, parce que considérées moins précises, considérées non intéressantes. Ensuite, dans la région de Figuig, Zoussana, avec des tracés de cartes pas forcément toujours précises, mais surtout avec des éléments importants, notamment un tracé précis d'un point de vue politique, mais un accord pour que la culture continue, c'est-à-dire l'accès historique, je ne sais plus quelle est la phrase exacte du traité, mais en gros, que les pâturages, que l'accès aux palmeraies, que l'accès des bêtes puisse continuer, que les familles puissent continuer à aller, venir, etc.
C'est-à-dire qu'il y a une frontière, mais elle ne doit pas être vue comme une séparation.
Exactement.
C'est ce qui est prévu
par le traité.
Par rapport au mode de vie des tribus, enfin des populations.
Complètement, que ça puisse être continué.
C'est 1845.
1845. Après,
mais cela dit, restons sur 1845, parce que quand on regarde la frontière, qui est encore celle d'aujourd'hui à ce niveau-là, Figuig, elle est, c'est comme si elle a fait un détour pour la rentrée dans le Maroc.
C'est plus que ça, c'est-à-dire que dans ce traité, on cite les villes qui sont à l'ouest et les villes qui sont à l'est, pour aller vite. Et on cite Figuig et Ish comme étant au Maroc. Okay, et on cite Bni Ounif et Ensfara comme étant algériennes. On cite Bcha comme étant algérienne. Ouais. Et Bcha, géographiquement, est plus à l'ouest que Figuig. Quand on regarde la carte, si on trace un trait vertical, Bcha, même Tindouf, etc., tout ça, c'est beaucoup plus à l'ouest que Figuig, dans une espèce de forme très... très
mais moi, j'ai entendu dire, alors je discutais avec Mustafa Khadeli sur... Je lui ai dit qu'on te recevait. Et d'après lui, le... Lyoté, quand il s'est installé à Bcha, le gouvernement français lui a demandé de quitter les lieux parce que c'était le Maroc. Et il leur a répondu, je ne suis pas à Bcha, je suis à Colombes. Colombes étant le nom de sa garde.
Le quartier colonial,
voilà, nommé d'après, je crois, un militaire qui est décédé là-bas ou quelque chose comme ça. Donc en fait, même vis-à-vis de la France, même Bcha était plus du côté marocain. Et c'est plus un coup de force de Lyoté qui l'a arraché, enfin qui l'a récupéré dans ce qui était sa régence, parce qu'en face, il n'était pas...
Et c'est quelque chose qu'on a traîné depuis longtemps, d'ailleurs. Un des problèmes d'arrière-fond de la guerre des Sables de 63 vient un peu de cette zone-là. On ne sait pas vraiment trop si elle est... C'est comme plaquer encore une fois une lecture d'État-nation sur une situation qui est très différente. On a Figuig avec des relations très différentes par rapport à l'État central, belle poche ou loin. C'est-à-dire, si on prend l'époque idrisside, Figuig est très très loin, parce que les idrissides avaient un territoire qui s'arrêtait bien avant. Par contre, à l'époque al-Mouhad, Figuig est quasiment
au centre
de l'Empire al-Mouhad. Donc il ne faut pas avoir une lecture plaquée sur...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est dans une marge, elle ne l'a pas toujours été.
Elle n'a pas toujours été.
Elle a été intégrée, loin. Elle a été en dehors.
Il y a ça, mais également ce lieu qui était un peu loin... a, par moment, accueilli des réfugiés, comme on les appelait maintenant, des gens en conflit avec le régime central qui sont réfugiés. Les Idrissides, à un moment donné, se sont installés là pour se réfugier. Les Banu Mahdès, qu'on a évoqué tout à l'heure, sont installés là un peu pour fuir un peu et pour s'éloigner de l'État central. Donc un peu ce territoire, mais avec quand même une allégeance au sultan, le Khatba se donnait au nom du sultan, etc. Donc, je reviens à la question de l'Al-Amrania, donc ce sera ces frontières, avec évidemment une application plus ou moins stricte, selon l'ambiance du moment.
Général.
Et une des grandes révoltes de cette région-là, c'est celle de Bouamama, Cheikh Bouamama, qui est un peu une des Cheikh Bouamama, la tribu donc, de son nom, Mohamed Moulaab ibn Cheikh, la tribu d'Ibn Cheikh, de Ed Cheikh, a été divisée par le traité de l'Al-Amrania. Les Mshir et Tchir de l'ouest, Raba, sont restés côté marocain, on va dire, et les Chiraga sont restés côté algérien, donc une tribu divisée, coupée en deux. Bouamama est né en. Donc, Mohamed Mshir est né en 1833.
Point technique.
Ouais.
Mohamed Mshir. Pourquoi on l'appelle Bouamama? Il doit un turban.
Turban.
Donc, ouais. C'est une caractéristique textile.
Alors,
quoi.
C'est une caractéristique textile dans une lecture actuelle. Le Bouamama est un prénom chez nous à Figuig. Bouamama est un prénom. J'ai des cousins qui s'appellent Bouamama, des autres qui s'appellent Bouamama. J'ai un cousin qui s'appelle Bouamama Kasso. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'état civil un prénom. Et est-ce que ça l'est devenu après? Est-ce que c'est lié à truc? Non, c'est.
Ah, qu'est-ce qu'il a donné l'autre?
En tout cas,
Mais même à Khadra, etc., c'est quand même un signe de prestige aussi. Quoi.
Il avait ce rôle-là. Donc, on est en 1833 à Al-Hamam Fougani, donc à Dirsa de Figuig. Et donc, on est dans cette deuxième grande révolte de l'Ouest algérien, Est-Marocain, on va dire, qui a commencé en 1880-90, donc menée par Bouamama, qui réunit ces deux tribus et qui attaque. Et donc, qui attaque, et avec des conflits qui ont duré très longtemps, notamment suite à des crispations et des tensions. Et donc, il était en rébellion jusqu'à 1908, l'année de sa mort. Il est décédé à Laayoune. Laayoune, c'est des Milouk. Donc, Laayoune Chaouqiya, entre Sérouliès et
Donc, il a fait quoi? Il a réuni les deux factions tribales coupées en deux.
Il a
attaqué l'État français à quel niveau?
On est dans cette région-là. En gros, il faut poser Ouharan, toute cette zone sud d'Ouharan, toute ouais. l'Oranais. D'ailleurs, ce Bouamama a une statue en Algérie, dans cette ville qui s'appelle Biyad, qui est en gros, si on trace un triangle Oran, Alger, on va au sud, on trouve une ville, et il y a une statue de Bouamama. Et donc, il a ce prestige de grand révolutionnaire résistant en Algérie.
C'est un Figuig.
C'est un Figuig ou le Hammam Fouqani.
Alors, juste pour...
Il est enterré au Figuig et enterré à Laayoune.
D'accord. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais en Algérie, ça c'est une information, les personnages comme ça un peu héroïques, on leur fait des statues. Au Maroc, on n'a pas cette tradition de statues. Mais en Algérie, on trouve des statues. On va trouver, voilà, l'exemple Bouamama. C'est une réflexion qui m'a été inspirée par ce que tu viens de nous dire, parce que nous, on ne fait pas ça. Quoi.
Et donc, cette révolution ou cette révolte, c'est conclu un peu par ce qu'on appelle un MN, c'est-à-dire que l'espèce de bataille, de la calmie, etc. Et la France lâche du lest sur la population, sur les contrôles, permettant notamment des accès au pâturage. Et la confédération qui a regroupé Bouamama autour de lui, il y avait beaucoup d'amour, qui c'est de grandes tribus de l'ouest algérien d'éleveurs, de nomades qui nomadisent dans cette région-là. Donc, question d'accès, liberté de circulation. Donc, c'est un peu des thématiques actuelles, contemporaines, mais les questions de liberté de circulation et liberté d'accès au pâturage, donc aux questions économiques, sont parmi les questions fondamentales dans des conflits qui ont un arrière-fond évidemment politique, religieux, mais cette question qui est fondamentale.
Un impact économique, et surtout l'occasion de rappeler, comme le fait souvent Al Boubrik, le spécialiste du Sahara, que la colonisation, donc l'arrivée des Français avec... C'est elle qui a complètement perturbé les échanges en imposant des limites sur un espace qui n'était pas forcément limité et en perturbant la circulation des gens dont c'était le gagne-pain et le mode de vie. Quoi.
Ça, mais également une imposition des limites, mais une imposition des limites par la force et dans une situation de force complètement disproportionnée. J'évoque juste parmi les conflits de cette région, il y a le conflit de 1903 où l'armée française bombarde Figuig parce qu'il y a eu justement plusieurs épisodes de bataille, de résistance, de réaction, etc. Une des réactions de cette population autour de Figuig a été punie par le bombardement de la ville. Et donc, en 1903, on comprend bien qu'en termes de rapport de force, il n'y a pas photo.
Mais je ne comprends pas bien, parce que le traité de la Marinière, tu nous as dit qu'il y avait une certaine souplesse par rapport au mouvement des populations. Et finalement, donc on est en 1845, finalement on se retrouve un demi-siècle plus tard avec une application plus dure et donc des mouvements de résistance de la population. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on fait cet accord, on a l'air de comprendre que les gens doivent bouger, et le moment où finalement on ne les laisse plus bouger au point de leur imposer une pression et des bombardements. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le texte du traité parle de la liberté de mouvement, mais la réalité du terrain est évidemment tout autre. La réalité du terrain...
Le besoin de contrôler a pris le dessus, quoi.
Et surtout, ça dépend également de qui est le commandant local de l'armée et quelle est la réaction, s'il y a beaucoup d'incursions ou pas.
L'ambiance.
Ça dépend de l'ambiance du moment, effectivement. Du moment. Et en général, n'était pas forcément tout rose. Donc le traité...
Et même la mentalité du français, du militaire qui va arriver. Il faut une certaine... Déjà, nous, parfois, citadins marocains, on ne comprend pas très bien forcément le mode de vie. Alors, tu imagines un militaire français.
Et dans un contexte, on est fin 19e, début 20e, où le Maroc, finalement, la question de « on va laisser le Maroc tranquille » était tout à fait vrai. La France a été intéressée par occuper le Maroc. Donc, si on pouvait un peu pousser un peu, rentrer un peu, on n'allait pas non plus se gêner. On n'est pas très loin de 1907, Gaza, etc. On n'est pas très loin de cette période-là. Donc, l'ambiance, effectivement...
Galilée,
oui. L'ambiance, effectivement, n'était pas forcément au beau fixe. Donc, quelque chose qui est encore très présent dans la...
Le bombardement de Figuig, il a été brutal.
Il était violent et surtout, c'est resté très, très présent dans l'histoire collective. Les anciens continuent à l'évoquer. C'est les premières photos. Et donc, c'est les premières traces de bombardement. Photos, physiques. Alors qu'avant, on nous parlait de Bouamama, on nous parlait de Al-Qadam, mais on n'a pas vraiment d'iconographie. Alors que là, on voit des photos de... D'ailleurs, il y a un des cuirassés de l'armée française qui a été appelé Figuig, suite au bombardement de Figuig. Donc, c'est quelque chose...
C'est un bombardement comment? Aérien? Comment ça se passe?
Non, avec des canons amenés, l'armée, des canons. Et on voit des impacts.
Alors, à propos des cuirassés, ce bombardement de Gaza, lui, il a été effectué par un bateau qui s'appelle Galilée, qui a donné son nom à une rue.
À la rue Tahassine.
Voilà, Tahassine, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'astronome.
Non, mais c'est vrai. C'est beaucoup moins glamour.
C'est beaucoup moins glamour. On a traîné le nom d'un bateau qui nous a déglingué la ville en croyant que c'était un géographe ou un géomètre, j'en sais rien. Bref, donc, une iconographie, un souvenir dans la mémoire populaire, même des photos de bombardement. Ouais. Voilà le traumatisme du bombardement de Figuig.
1903.
La présence. Qui fait partie du grand film de la France.
Qui vient un peu pousser, qui vient un peu titiller, etc.
Boujda, voilà.
Titiller, etc. On est dans cette période-là, protectorat, début du protectorat, etc. On est dans une zone où il y a une vraie présence militaire. Avant ça, il y a une présence des premiers moines. Il y a une église qui est construite à Figuig en 1908 ou 9. Je ne suis pas sûr de la date, mais en gros, on est dans cette période-là. La présence des administrateurs, période coloniale. La zone change un peu quand on... C'est une zone qui n'intéressait pas forcément beaucoup, mais qui commence à changer quand on découvre des minerais dans cette région-là. On n'est pas très loin de Knatsa. Knatsa, qui est cette fameuse région qui parle d'ailleurs le même amézer que Figuig de mine de charbon. Je vous renvoie à l'échange qu'on a eu ensemble sur ce train qui vient, le fameux Mer Niger, ce train qui vient du nord, réalisé par des prisonniers ou des travailleurs forcés, et qui s'arrête actuellement un peu après Bouafa à Al-Mengoub. On voit encore des vieilles gares fantômes et des trains.
C'est incroyable.
On est dans cette zone-là, hein. On est dans cette période-là, et qui allait à Knatsa, pour justement récupérer les minerais, sur le chemin et les remonter vers la mer et vers le, pour alimenter notamment l'Allemagne nazie à l'époque, parce qu'on était sur la frange de Vichy. Donc on a évidemment une espèce de contrôle de la région qui s'intensifie à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a un intérêt économique dans cette région-là. Alors que c'est des régions désertiques qui n'intéressaient pas grand monde. Il y avait les Figuiers, les Oujda, etc. Mais entre, il y avait bon, quelques nomades qui traînaient, mais ce n'était pas forcément quelque chose là. Ça devenait une zone d'enjeu, une zone où la frontière n'était pas vraiment tracée de manière précise par le traité de l'Alamania, justement. Indépendance du Maroc, 1956, mais malgré tout, Figui, comme d'ailleurs d'autres sites, ont servi servant de base arrière au FLN. Au Felaga et au FLN, donc comme Oujda, comme
la
ailleurs.
La même logique.
Mais juste, donc pas forcément, c'est pas ça qui va nous arranger nos relations avec la France. Donc il y a eu quelques expéditions punitives, quelques échauffeurs là-bas, et donc Figuig, base arrière du FLN, au même titre que d'autres villes
sur la frontière, quoi.
Dans la frontière. Et dans une zone un peu, voilà, qui a vécu, est-ce que on est dans cette zone-là, évidemment riche en histoire, une zone centrale, comme on a pu le voir par ces événements-là, mais une zone qui a fait l'objet de ce conflit absurde de 1963, la guerre des sables, entre le Maroc et l'Algérie, un peu, c'est octobre 1963, un peu fruit d'une espèce d'escalade nationaliste avec les premiers besoins de la République algérienne d'affirmer le nationalisme, etc., avec toute une population dans cette région-là. On ne sait pas très bien s'ils étaient Maroc, Algérie, etc., mais avec évidemment côté marocain, un nationalisme poussé avec cette publication de cette fameuse carte Flalam de l'Istiqlal, avec l'espèce de carte du Grand Maroc qui va englober quasiment le tiers de l'Algérie actuelle, etc. Donc on est un peu
La surenchère nationaliste à qui est le plus patriote.
Avec en arrière-fond la guerre froide, avec l'Algérie qui est aidée par l'Égypte de Nasser, Cuba, nous, le Maroc par les États-Unis, l'Espagne, etc. Donc on est un peu dans ça, donc une escalade verbale, ensuite des frictions à la frontière, ensuite conflit armé qui a duré un bon mois, avec des pertes de part et d'autre, et surtout une grande tristesse de voir que des pays qui sont censés être dans ce grand territoire juste au lendemain de l'indépendance, plutôt que on est au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, quelques années après l'indépendance du Maroc, et la première chose qu'ils commencent par faire, c'est se faire la guerre. C'est un peu comme au même titre entre la Haute-Volta et le Mali, un peu plus bas, etc. Chacun veut poser son autorité nationale en bousculant un peu le voisin. Une médiation africaine qui se met en place, et donc un cessez-le-feu. Un arrêt des combats et ensuite un cessez-le-feu un peu plus tard, fin 63, début 64. Mais on est dans une période où la vie continue, malgré tout, avec cette frontière qui est là, avec ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on n'a pas forcément une frontière rigide. Donc selon l'ambiance, comme tu disais, Reda, on passe de part et d'autre ou on ne passe pas. Et ça se crispe en 76, évidemment, au même titre que ça s'est passé ailleurs avec évidemment, la marche verte, la réaction, on vire les Marocains de l'Algérie, notamment beaucoup de travailleurs, etc.
Là, il y a une mauvaise ambiance.
Là, ça dégrade vraiment. Et donc, la fermeture est beaucoup plus étanche. On ne passe plus. Et donc, notamment avec des impacts forts, évidemment, d'un point de vue social, parce qu'on parle de famille, on parle de famille divisée, évidemment. C'est une période qui est vécue très difficilement localement. Impact économique évident, parce que même des accès à certains palmerets, il y a certains palmerets, je cite par exemple Méliès, qui a disparu maintenant, parce que plus d'accès, plus d'agriculteurs, plus de personnes pour arroser, personnes occupées, donc on perd des ressources et des palmerets. L'accélération de la migration de la région, donc toutes les forces actives.
Pas de la migration subsaharienne.
Les gens de Figuig quittent pour aller bosser ailleurs.
Ah, la migration de Figuig vers le centre urbain.
Ouais. Il y a eu toujours une migration un peu historique dans le lieu, parce qu'on est dans une oasis. Actuellement, c'est en gros 12-13 000 habitants. Et c'est à peu près la capacité de cette oasis de fonctionner, on va dire, pour simplifier. L'oasis, c'est un territoire très fragile d'un point de vue écologique, qui a une capacité de recevoir des populations et de gérer des populations. Et donc tout l'excédent, de guillemets, doit aller ailleurs. Et donc il y a une migration très ancienne, 19e siècle, 20e siècle, beaucoup vers l'Algérie. J'ai un grand-père qui a bossé à Oran comme boulanger avant d'ouvrir une boulangerie à Tiaouliet, à l'Aïrmont. Donc une migration où les gens vont ailleurs, souvent boulanger d'ailleurs, une grande expertise sur la production du pain et de les minuteries. Donc on continue maintenant à avoir beaucoup de boulangers.
Toi, tu en fabriques ou tu en manges?
Moi, j'ai mal tourné, j'ai fait architecte.
Ouais. Mais tu en manges quand même.
Mais mes grands-pères des deux côtés sont boulangers, etc. Et d'ailleurs, la plupart des boulangeries et pâtisseries du Maroc appartiennent toujours à des Figuigi. Donc si vous nous servez, vous mangez, punition, mangez plus de pain.
C'est impossible. Impossible.
Et donc, cette migration qui s'accélère vers l'Europe, beaucoup vers la France. Et donc, une espèce de frontière fermée, il y a eu cette espèce d'ouverture les années 90, ouais. Ensuite fermeture depuis. Et c'est très violent, les frontières fermées. Surtout une
c'est très violent, les frontières fermées, étanche. Quand on est au niveau de la frontière. Voilà.
Surtout quand on la voit, la frontière de Abdinoulif est à 2 km. C'est-à-dire le premier, en tout cas, la gare de Figik et Abdinoulif, donc l'autre côté de la frontière. Donc il y a encore le panneau gare de Figik.
Et personne ne peut aller à la gare de Figik.
Il n'y a plus de train d'ailleurs, de toute façon. Donc ça, le problème. Mais en tout cas, c'est très violent. Et de cette fermeture physique étanche, il y a deux frontières physiques étanches fermées, celle-là, et Corée du Nord, Corée du Sud. Donc, comment on joue dans la division des grands par rapport à cette frontière. Et vu de Casaraba ou d'Alger, ceux d'à côté ne sont pas sympas, machin, faut absolument fermer. Localement, c'est quand même violent, une fermeture fermée. Surtout que quand on regarde, quand elle est fermée depuis quelques décennies maintenant, quand on raisonne sur le temps long de l'histoire, elle était beaucoup plus souvent ouverte que fermée. Et c'est une anomalie qu'elle soit fermée. Quand on regarde, qu'on raisonne sur le fonctionnement de cette région-là, sociale, culturelle, politique, économique, c'est un non-sens qu'elle soit fermée. Pour finir, j'ai quand même dire quelques mots sur Figik actuellement. Figik actuellement, c'est également la palmeraie, on en a parlé. Mais une palmeraie qui subit de plein fouet le changement climatique, ce n'est pas juste un slogan, donc c'est l'eau qui diminue. C'est une palmeraie qui également, qui en général fonctionne avec plusieurs strates, la strate des palmiers, la strate des fruitiers et la strate des maraîchers, qui demande beaucoup de bras, qui demande de l'eau. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a une dominante du palmier, dattier, parce que c'est plus valorisant économiquement. Et ça manque de demande de bras et les jeunes sont tous partis ailleurs. C'est l'impact climatique sur une grande population nomade qui vient se sédentariser, donc avec tous les bouleversements sociaux que ça peut générer. On en a parlé un peu, cette situation un peu inconfortable liée à la frontière où des terres agricoles ne sont plus accessibles, notamment ce qui s'est passé il y a quelques années avec les agriculteurs de Wlad-Simen qui ne pouvaient plus accéder à leur terrain à l'Alja. Sans doute pour plein de bonnes raisons politiques, mais l'agriculteur sur place, à la limite, ça lui fait une belle jambe de savoir qu'il ne peut plus accéder, et l'impact est localement très, très fort. Peu importe les explications et peu importe à qui la faute finalement, même si c'est une situation qui est de langue locale dramatique. Il y a également beaucoup de monuments, on a parlé de la palmeraie, le patrimoine vert, l'Oasis de Figik qui est sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 2011.
Qu'est-ce que c'est que la liste indicative?
La liste indicative, c'est l'État, parti, qui déclare son intention de proposer un site.
Ah, d'accord.
Le Maroc,
c'est la liste des candidatures qui se préparent, quoi.
Et l'UNESCO prend note de cette candidature. Donc l'État marocain.
Une pré-candidature, une sorte de prix.
Le enregistre et dit voilà, allez-y, on attend vos dossiers complets. Et donc depuis 2011, le Maroc a déclaré son intention. Il y a une vingtaine de sites.
C'est le patrimoine matériel, ça y est.
Matériel. Une vingtaine de sites sur la liste.
Tétouan, Fès.
Exactement, complètement. Et le Maroc a fait cette demande en 2011, ça a été enregistré. On est en 2023, et il n'y a toujours pas de dossier inscrit, donc à un moment donné. Et c'est le cas pour d'autres sites. Il y a la mosquée de Taza, il y a Gulmé-Mouednoun, il y a une quinzaine ou une vingtaine de sites.
Il faut bien être clair parce qu'on n'a pas l'habitude dans ce podcast de parler de patrimoine matériel. C'est le complément de l'immatériel. L'immatériel, c'est Gnawat, Boreda, la fauconnerie, tout ça, c'est...
C'est deux registres complètement différents et c'est deux conventions différentes. Ouais. C'est le patrimoine... Non, ça peut être la pétale nature. Hein. Le patrimoine matériel peut être culturel ou naturel. Ça peut être le Djoubkhal, ça peut être un site naturel, etc. Mais c'est deux registres complètement différents, c'est deux conventions internationales différentes. Le patrimoine matériel, c'est la convention 72, le patrimoine immatériel, c'est la convention 2003. Et c'est des comités différents, c'est des experts différents. Après, il n'empêche pas qu'il y ait des croisements. Marrakech est sur la liste du patrimoine matériel, Jemaa el Fna, qui est sur la liste du patrimoine immatériel. Et c'est sur la même chose, ça ne pêche pas des superpositions, mais c'est deux process différents. En termes de monuments, il y a beaucoup de choses à voir. Évidemment, l'Aqsa, on en a parlé. Il y a beaucoup de monuments. Il y a des mosquées, il y a des Zawiyah, une mosquée al-Hajariya, une des rares mosquées à minaret octogonale, à Figik, au Aqsa ou Daré.
Octogonale. Comme Chaoun.
Très très belle mosquée en pierre qui a plusieurs siècles. Il y a également des Zawiyah, des
Yassir. Elle ressemble à le Chaoun, juste pour information.
Sauf qu'elle est en pierre apparente. D'accord. En pierre apparente. Donc c'est un autre. Il y a le Zawiyah de Sidi Abdelwafi, le Zawiyah de Sidi Abdjba. Sidi Abdjba, c'est une Zawiyah, mais c'est également un lieu où il y avait au 15e, 16e siècle une université, je ne sais pas si le terme est peut-être anachronique, mais en tout cas un lieu d'enseignement de grande réputation sur la science théologique, mais également sur les maths, etc. Fait par Sidi Abdjba et par son fils en particulier. C'est également Ajdir, qui est une muraille, c'est également le Mahbouhat, qui sont des espèces de sources d'eau. Où on descend en profondeur pour se laver, pour nager. On descend dans des escaliers, on va en profondeur de la terre.
Ah, c'est une source souterraine, quoi.
C'est des poches d'eau souterraines, sur plusieurs endroits où on descend, et c'est assez impressionnant parce qu'on descend dans le noir et on arrive dans une eau.
Dans une cuve.
Dans une espèce de cuve.
L'eau circule, quoi.
L'eau bouge, bien sûr.
Ah, d'accord.
L'eau circule. C'est très.
Tu as fait
très...
ça, toi?
J'ai fait ça. Après, il ne faut pas être claustrophobe, mais c'est assez impressionnant comme.
Donc en fait, c'est comme de la spéléo. Natation.
Spéléo aquatique.
Comment c'est pas connu, ça?
Il faut venir. Il y a également tout le réseau d'eau et de gestion de l'eau qui est un point fondamental, qui est en interface entre le matériel et l'immatériel, parce que là, les canaux sont matériels, évidemment, patrimoine matériel, mais toute la compétence des HRFI, des personnes qui gèrent l'eau, sont immatérielles. La question du patrimoine est intéressante. Il y a une route creusée ou réalisée dernièrement qui traverse la Palmeraie, qui s'appelle la route touristique, qui a fait polémique parce qu'elle a un peu impacté de manière grande le patrimoine, ce patrimoine de la Palmeraie, qui a fait un peu une polémique, et en même temps qui, d'un autre côté, même si ce n'est pas forcément ma position, je veux bien entendre la voix locale qui dit que ça permet de rendre des terrains plus accessibles, pouvoir y accéder de manière plus facile. Vous nous embêtez venant de loin sur le patrimoine, dans la réalité des choses, on a besoin de bouffer, on a besoin d'accéder à nos terres, on a besoin de les planter, etc. Donc c'est un sujet un peu polémique. Une gastronomie locale particulière.
Ah bon?
Sur Mehmeh, sur Trit, sur Klila, qui est cette fromage à base de lecaillé, sur Bedes, sur Choba, sur Chicha, sur toutes les variétés possibles de couscous, parce que la compétence des Figigi est liée au pain, mais également au couscous et à la farine, etc., à la gestion de la farine. Sans doute pas la gastronomie la plus raffinée du monde, mais une gastronomie à caractère. Toutes les rituels ou tous les plats de Trit Metsani liés à la fête de Neye, qui est une fête qui se fait un peu partout dans certaines régions. Et voilà, avec quelques personnages célèbres qui sont issus de là-bas, Mohamed Abdeljabari, Samira Bouhsoun, la première pilote marocaine, la mère de Mehdi Bounani et de Figuig, Bouder et de Figuig, sur un autre registre. Bouder, l'humoriste et de Figuig, sur un autre registre.
Je ne sais pas si ça suit le virage.
Il y a beaucoup de réduits locaux.
Et Abdelrahim Prasso.
Et beaucoup de, vraiment pour terminer, pour ceux qui veulent vraiment avoir plus d'infos, plus de matière, déjà il faut venir et également lire les ouvrages de quelques réduits locaux. Je cite en particulier Mohamed Mnali Bouziane qui en est à son 15e ouvrage sur Figuig, qui est un instituteur local, qui est un érudit incroyable et interminable sur Philippe, qui écrit des livres passionnants sur tous les registres qu'on doit savoir sur Figuig. Donc c'est un must know important si on veut s'intéresser à la région.
Merci beaucoup.
Je peux dire un mot quand même sur la situation actuelle?
Bien sûr.
Pour inviter les gens à venir, c'est quand même une très belle palmeraie. C'est un fonctionnement sur les différents ressorts très différents. Il y a une grande maîtrise de l'eau, la gestion de l'eau, les ZADOTS, les irrigations qui sont sur un système fondamental très beau de gestion traditionnelle de l'eau, avec des maîtres de l'eau, des HRFI, qui gèrent la répartition de l'eau entre. Donc beaucoup
c'est
de techniques.
Réellement,
HRFI. Donc beaucoup de maîtrise de l'agriculture. Une variété de dattes particulière, Aziza, qui n'existe que là-bas, qui est très, 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 très goûtue, très sèche, mais avec très peu sucré, mais avec beaucoup de saveur. Et une population extraordinaire qui se dépérit parce qu'on est un peu loin de tout. On est un peu loin de tout. Avec une très belle équipe de volley, qui est l'équipe Louaha, dont le président est décédé, mais avec une vraie amour pour ce sport-là.
D'accord.
Donc, et je vous invite tous à venir voir Figuig, c'est une belle. Super.
Quel envolé! Tu as récupéré le rôle d'ambassadeur touristique de Figuig dans la dernière minute du podcast. Et ben je trouve cette remontada extraordinaire de Figuig à la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé. La passion s'entend dans tes mots, et c'est bien l'objectif de Radio Maalif, que de donner la parole aux passionnés pour parler de ce qui les passionne et de ce qui les touche. Merci beaucoup. Nous allons de ce pas à Figuig.
Voilà.
Yallah.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.